Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. Dans une partie d'échecs, les pions sont toujours sacrifiés en premier. Et ce qui est valable sur un plateau de 64 cases l'est aussi sur la scène politique. Les Templiers en ont fait l'amère expérience. Dans un complot digne des meilleurs épisodes de Game of Thrones, les chevaliers à la croix rouge sur fond blanc vont être arrêtés et jugés pour hérésie. Non sans passer par la case torture afin d'obtenir des aveux de bonne foi, si vous voyez ce que je veux dire. Nombre d'entre eux, dont le grand maître de l'ordre, seront brûlés vifs pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, sort funeste qui scellera la fin des Templiers, même si les jeux vidéo Assassin's Creed voudraient nous faire croire le contraire. La raison de cette vendetta ? Une guerre de pouvoir entre le roi Philippe le Bel et le pape Clément V, qui devenait un peu trop ambitieux au goût de la couronne. Mais je vous narre là la version actualisée des faits. Jusqu'à peu encore, on suspectait les victimes, donc les Templiers, d'être en partie responsables de leur triste sort. Et le souverain, d'être dans son bon droit. C'est la relecture d'un épais rouleau de l'époque qui nous permet de disculper les uns et d'accabler l'autre. Les Templiers ont commis bien des horreurs en bataille, ils n'en sont pas moins innocents de ce dont on les accuse ici. Rembobinons la cassette, si vous voulez bien, et notre précieux rouleau. Marine Benoît, l'experte en archéologie de Sciences et Avenir, revient pour nous sur le déroulement des faits. Bonjour Marine.
Bonjour.
Personnellement, quand j'entends parler de Templiers, je pense de suite aux croisades, au troisième volet de la saga Indiana Jones, ou aux jeux vidéo Assassin's Creed, où les soldats de Dieu ont plutôt le mauvais rôle. Qui étaient les Templiers et comment leur ordre est-il apparu ?
Alors les Templiers, ce sont des hommes, déjà, on peut le préciser, qui sont des civils, qui viennent de un peu de partout, toutes les classes sociales, et qui sont donc les membres d'un ordre religieux et militaire, donc c'est la spécificité de l'ordre du Temple, qui est apparu en 1129, à l'issue du concile de Troyes, à la base pour escorter et protéger les pèlerins qui souhaitaient se rendre en Terre Sainte, donc à Jérusalem, dans un contexte de croisade, donc de guerre de religion, donc il fallait les protéger. Ils se sont fait remarquer de cette manière. Des ordres religieux et militaires, il y en avait d'autres, mais l'ordre des Templiers sera le plus important en termes de notoriété et de nombre de membres.
Puissant militairement, cet ordre était aussi particulièrement riche, et même dans les petits papiers de plusieurs rois, au point d'assurer la garde de certains trésors royaux. Comment ont-ils amassé une telle richesse ?
En fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de la fortune, de la richesse des Templiers. En réalité, il n'y a pas de trésor des Templiers, au sens pièces d'or, coffres cachés quelque part. Ce qui fit la richesse des Templiers, c'est vraiment leur parc foncier, si on peut parler comme ça. En réalité, ils étaient propriétaires via des dons de tout un réseau de monastères, de bâtiments religieux et en tout genre. Et c'est une fortune foncière qui a été démantelée par la suite. Mais le trésor des Templiers, c'est vraiment une légende. Mmh. Et concernant les rois et le fait qu'ils aient donc sous leur protection les trésors royaux, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'était un ordre sur lequel on pouvait compter, qui avait la force militaire pour protéger ces trésors et qui avait donc les structures aussi pour les protéger. Et enfin, qui était proche de la royauté. Donc en fait, c'était logique.
Proche de la royauté, mais en même temps croyant. À qui obéissaient les Templiers, plutôt au pape ou au roi ?
Au pape.
Donc ils en référaient à une autorité religieuse.
C'est ça.
Ce qui va, j'imagine, poser des problèmes. Mais tu disais que l'ordre a été monté au tout début du XIIe siècle. Là, les éléments qu'on va raconter se déroulent quasiment 200 ans plus tard. Est-ce que tu peux nous dire peut-être à quoi ressemble l'ordre à cette époque, sachant qu'ils ont perdu la Terre Sainte, hein, ils ont dû en revenir. Est-ce qu'ils ont perdu peut-être aussi, en même temps que les pèlerins qui devaient protéger sur ces terres-là, est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu de leur lustre ?
Si, un petit peu. Alors de leur lustre, je ne sais pas, peut-être pas, mais on peut dire qu'il y a une perte peut-être de vivacité, il y a des tensions internes, une perte de vitesse peut-être de l'ordre du Temple, mais néanmoins ça, c'est typiquement quelque chose qui a été assez exagéré sur la fin de l'ordre. En réalité, c'est quand même encore un ordre solide, qui compte beaucoup et qui a encore énormément de membres et d'influence.
Ils ne cherchent pas une nouvelle utilité, vu qu'ils n'ont plus de pèlerins à protéger.
Non, à ce moment-là, ils sont vraiment partout en France, donc il y a à la fois ce rôle de protecteur du trésor royal, mais il y a quand même tout un tas de choses de protection en tout genre, en fait, qui n'est pas que géographiquement située en Terre Sainte.
Comment les choses ont-elles dérapé entre notre souverain, hein, Philippe le Bel, et le pape qui siégeait en Avignon, Clément V ?
Alors, en réalité, le Philippe le Bel était déjà en conflit avec le prédécesseur de Clément V, donc Benoît XI. Clément V a subi un petit peu les tensions précédentes, et donc il y a un rapport qui s'installe entre eux, qui est dans la continuité. Là, on est dans un problème de pouvoir et d'influence. La papauté est très puissante, mais Philippe le Bel, lui, a des ambitions. Il veut aussi être maître en son royaume et dominer l'Europe. Il y a un conflit entre deux positions, deux individus qui veulent tout simplement être les hommes les plus puissants d'Europe.
Il y a quelque chose que moi, j'avais oublié et qui est revenu en te lisant, c'est que tout se passe en France. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment là devant une sorte de Game of Thrones, mais c'est vraiment des intrigues très locales, finalement.
Oui, même s'il y a quand même un mur un peu entre ces deux hommes, parce que il me semble que pendant tout le conflit des Templiers, ils ne se croisent pas. Clément V sait aussi qu'il est un peu chaud aux fesses, il est en territoire ennemi, donc il va tenter de se cacher, il va fuir. Il y a des déplacements un peu clandestins comme ça. Oui, il y a un climat très tendu, parce qu'on est sur un territoire assez réduit en effet. Et d'ailleurs, les Templiers, ils ne sont pas présents qu'en France, mais il n'y a qu'en France qu'ils vont être chassés et voilà, faire l'objet de cette vendetta terrible.
Le terme de vendetta, de machination, de complot, je suis allé chercher un des synonymes, mais cette machination, elle est savamment orchestrée, je l'ai lu dans ton dossier. Le roi et son garde des Sceaux en particulier n'ont rien laissé au hasard. Un coup de filet géant est organisé le 13 octobre 1307. Sous quel motif ?
Alors, cette arrestation, elle est préparée des mois avant, dans le plus grand secret. Donc Philippe le Bel et ses conseillers se réunissent dès le printemps de cette année-là pour organiser ce vaste coup de filet. On peut vraiment le comparer à un coup de filet de la police actuelle, puisque d'ailleurs les Templiers vont être arrêtés au petit matin. Donc on les cueille comme ça à l'aube. Et donc sur quel motif ? On va les accuser d'hérésie. Il est question de trouver quelque chose de si énorme. Philippe le Bel sait très bien qu'il n'a rien à reprocher aux Templiers et que c'est un outil pour faire plier le pape, pour l'affaiblir. S'attaquer à l'ordre du temple, c'est une manière de tirer sur le pape indirectement.
Un coup à deux bandes.
Et donc, pour pouvoir avoir des raisons de s'attaquer à l'ordre du temple, il faut que ces raisons soient absolument démesurées. Enfin, et donc, les accuser d'hérésie, de toutes les horreurs, c'est presque suffisant. Ça va justifier les moyens.
Oui, parce qu'en l'occurrence, il va prendre la balance et il ne va pas hésiter, quoi. Il va en mettre des tartines. Hein.
Techniquement, il ne peut pas s'attaquer. Il n'a pas vraiment le droit de s'attaquer légalement, en fait, à l'ordre du temple. Mais là, il le fait en disant « Regardez, c'est tellement énorme, c'est tellement monstrueux ce qui font que moi, roi de France, je m'octroie ce droit-là. »
Oui, sachant qu'en plus, accusé d'hérésie, c'est finalement les accuser d'un péché religieux, alors que c'est un ordre religieux.
Et c'est là où il coince Clément V, c'est que le pape, lui, qu'est-ce qu'il peut faire ? Tout au mieux, c'est tenter de prouver que ces accusations sont fausses. Mais ça va prendre un temps fou. En attendant, il est affaibli. On peut aussi dire que les Templiers, c'est vrai, et donc que Clément V protège des hérétiques. Ça, c'est terrible pour un pape. Donc, il n'a pas vraiment d'autre choix que de jouer le jeu. En réalité, il ne va pas rien faire. On a l'impression, quand on lit la page d'histoire, c'est vrai que l'ordre du temple disparaît, il y en a qui sont brûlés sur le bûcher, que c'est un échec total pour le pape. Mais en réalité, il va éviter la condamnation des Templiers. Ça, c'est très important. Et ça, c'est une défaite pour Philippe le Bel.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte de loi qui dit « vous êtes reconnu coupable ».
Il n'y a pas de verdict en justice qui les reconnaît comme coupables d'hérésie. L'ordre va être dissous, leurs biens vont être dissous, ils vont quasi tous partir en prison, même si certains ont pu ne pas y aller, enfin bref. D'autres vont être brûlés. Par rapport au nombre de Templiers, c'est un petit nombre quand même. On est sur presque, on va dire, entre 600 et 1000 Templiers à peu près, un millier quoi. Il y en a 54 qui vont finir sur le bûcher, plus après Jacques de Molay et un autre
le grand maître de l'ordre.
Qui est le grand maître de l'ordre. Et donc, finalement, Clément V parvient à éviter le pire. Même si ça paraît bizarre dit comme ça, mais le fait de ne pas avoir cette condamnation, c'est très important.
J'ai évoqué une pièce importante en introduction. Vous l'attendiez sûrement, c'est le moment. La défense appelle la pièce à conviction numéro 1. Et c'est vrai que c'est une sacrée pièce, puisque c'est un parchemin en peau de chèvre, pour l'anecdote, qui mesure pas moins de 22 mètres. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu, cet objet ?
Oui, donc c'est un rouleau. Donc, ce sont des peaux de chèvre qui sont cousues entre elles, puisqu'à l'époque, on n'a pas de papier. Donc, ce sont toutes ces peaux de chèvre qui, bout à bout, font 22 mètres, sont roulées sur elles-mêmes. Et donc, c'est un procès-verbal de l'interrogatoire qui est fait à l'issue de l'arrestation des Templiers. Donc, de leur interrogatoire mené par le grand inquisiteur, Guillaume de Paris, de son nom.
Et comment cette pièce, ce document précieux de quasiment 700 ans, a traversé les âges ?
C'est un document donc officiel qui a eu la chance de pas trop souffrir des affres de l'histoire parce qu'il a tout simplement été conservé dans les archives royales. Il n'a pas vraiment bougé d'endroit pendant plusieurs siècles. Donc c'est des documents qu'on a toujours conservés précieusement dans un souci historique déjà à l'époque. Et même si ses premiers feuillets étaient assez endommagés, donc même si il y a quand même eu des petites dégradations, il est extrêmement bien conservé. Par ailleurs, il a été restauré il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, il est encore dans un meilleur état qu'il ne l'était il y a 100 ans. Comme je disais, ses premiers feuillets qui étaient souvent manipulés étaient abîmés. Là, il a pu bénéficier de petites réparations sur ces morceaux qui manquaient. On a bien recousu aussi les feuillets entre eux. Et puis, il était teinté, il avait une couleur un peu plus foncée à cause de la poussière et de la crasse en fait, qui s'était accumulée sur la peau. Et donc, grâce à une petite gomme, il a pu retrouver sa couleur d'origine.
Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce parchemin ? Puisque tu parlais de procès-verbal, est-ce qu'on y a uniquement les déclarations des chevaliers et autres membres de l'ordre qui sont torturés, ou est-ce qu'il y a également tout le process d'interrogatoire qui est décrit ?
Alors, ce n'est pas du transcript mot pour mot, comme on pourrait avoir dans une salle d'interrogatoire. Il a été remis au propre, en fait, après, et un petit peu raccourci, parce que c'est des heures et des heures et des heures d'interrogatoire. Bon, déjà 22 mètres, hein, c'est pas mal. Mais donc, oui, on a vraiment questions, réponses, comment réagit-il, il dit ça, et puis voilà.
On lui coupe telle partie, on le...
Oui, oui, on a aussi la description de certains actes de torture.
Pour obtenir les aveux.
Alors, les aveux.
On va laisser la peau de chair de côté pour un moment, on va revenir à nos moutons. Les Templiers sont donc arrêtés pour des prétextes, on va le voir, fallacieux, hein, pour ne pas dire fumeux. Je sais bien qu'il n'y avait pas Mediapart, ni 20 minutes, ou de fact-checker à l'époque, mais ces accusations, ce complot, c'est passé comme une lettre à la poste, que ce soit dans l'opinion publique ou, tu l'as dit, hein, du côté du pape.
Comme une lettre à la poste, je ne sais pas. En fait, c'est tellement le crime le plus grave, le crime d'hérésie, que le remettre en cause... c'est déjà presque être hérétique. Donc, on va dire qu'il y a quand même une forme d'omerta quand on en arrive à ce stade. Et puis, c'est Philippe le Bel aux manœuvres, le peuple le sait. Donc, il est difficile de défendre publiquement les Templiers.
Une position pas facilement tenable.
C'est ça.
Sur l'hérésie en tant que telle, on les accuse d'adorer quoi ? Des figures païennes, ce genre de choses ?
Oui, alors on les accuse de renier le Christ. Beaucoup d'accusations qui se concentrent autour de la cérémonie d'introduction des Templiers, donc vraiment cette cérémonie d'initiation, où là, on les accuse de cracher sur la croix, sur le crucifix, d'adorer une figure d'homme barbu, mais on ne sait pas trop qui c'est, ou d'animal, de renier le Christ verbalement. Et à travers certains actes. Mais aussi, on va les accuser d'homosexualité. Hein, donc,
qui, à l'époque, était...
Voilà, ouais. Au niveau de gravité, on est bien élevé aussi. Donc, d'embrasser sur la bouche, d'embrasser sur la croupe, d'embrasser un peu partout sur le corps d'autres membres à leur demande, etc. Bon, on imagine vraiment les clichés d'une cérémonie un peu obscure, un peu sectaire, où on fait des choses sexuelles, voilà. On est dans ce genre de registre.
Ouais, puis j'imagine que dans une France très croyante à l'époque, le fait d'accuser des gens de commettre de tels actes, ça devait...
Ah bah oui, 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 c'est ça, là, vraiment, c'est...
Puis, le pire des crimes.
Philippe le Bel a choisi de leur imputer les pires crimes qu'on puisse commettre à l'époque, surtout quand on est religieux.
Et que nous apprend le parchemin, on y revient donc, sur la culpabilité, ou en tout cas le calvaire qu'ont pu vivre les malheureux suppliciés, enfin ces membres de l'ordre accusés ?
Bah déjà, comme certains actes de torture sont décrits, les aveux qui en découlent sont aussi donnés, donc on peut très bien capter l'ambiance. On a des hommes qui vont juste être torturés jusqu'à devoir admettre les pires choses pour que tout ça s'arrête, quoi. Oui, on a vraiment une petite fenêtre sur l'horreur de l'époque, la cruauté aussi d'un monarque qui finalement se retourne contre des membres d'un ordre qui l'ont soutenu, qui ont gardé aussi son trésor. Donc, c'est un document administratif très violent.
Ouais.
Voilà.
Dans ton dossier, tu évoques aussi le grand maître de l'ordre qui, lui, j'ai l'impression, à lire les extraits du parchemin, a relativement peu plié sous la torture.
Oui, il n'est pas le seul. Il y en a quand même plusieurs qui n'ont jamais fait d'aveu. Jacques de Molay fait partie de ceux qui n'ont pas fait d'aveu. Finalement, ça ne les a pas sauvés. De toute façon, faire tomber la tête de Jacques de Molay, c'était l'objectif aussi. C'était le grand maître. Il fait partie de la dernière salve d'exécution sur le bûcher.
On a évoqué un chiffre, c'est celui des 54 malheureux, puisque c'est ceux qui vont être exécutés, brûlés vifs en l'occurrence. Dans ton dossier, tu parles de chevaliers relapse. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors oui, ça désigne donc ces chevaliers qui vont revenir en fait à un moment sur leurs aveux, puisque donc aveux sous la torture, et donc vont tenter de se défendre et d'affirmer qu'en réalité tout ça a été manigancé. On appelle ça le crime de relapse et c'est un crime extrêmement grave, pareil pour l'Inquisition, le fait de revenir sur ses paroles. Et donc ces chevaliers-là qui vont tenter d'organiser leur défense sous l'œil de, en tout cas Clément V les aide à organiser cette défense et veut justement pouvoir avoir un procès juste, Philippe le Bel va un petit peu paniquer, va se dire « Ouh là là, quelque chose se trame, ils sont en train de se rebiffer ». Et donc, il va faire envoyer au bûcher ses 54 chevaliers de l'Ordre du Temple qui, justement, reviennent sur leur déclaration.
Dernière question, peut-être pour ouvrir un peu le sujet. Ce rouleau, il n'a pas été retrouvé lundi dernier, il a même été traduit en 1851. Comment ça se fait que, en soi, on innocente les Templiers que, on va dire 700 ans plus tard, hein, tu me disais que les chercheurs avaient réinterprété un peu ces textes ces 20 dernières années?
Oui, en fait, il a été traduit en 1851 par Jules Michelet. Depuis, il n'y avait pas vraiment eu de nouveau travail de retranscription, de traduction. Et en fait, il y a vraiment un changement de perspective, de paradigme en fait, sur ce document administratif que les historiens, pendant des années, des décennies, ont pris au pied de la lettre. En fait, l'innocence des Templiers était remise en question pendant tout ce temps. On se demandait quand même s'ils n'avaient pas commis des crimes d'hérésie et s'il n'y avait pas eu toutes ces choses bizarres qui étaient commises durant les cérémonies, notamment d'intronisation. Or, aujourd'hui, ça nous paraît aberrant, en 2023, de considérer un document administratif qui relate des faits de torture qui sont en plus chapeautés par le grand inquisiteur du royaume. Ça paraît fou de se dire qu'on ne peut absolument pas remettre en question ce document et son contenu. Donc, on sait très bien que qui dit torture dit aveu. Et que tout ça, souvent...
Ne pèse pas bien lourd, en fait.
Bah oui, on l'a vu dans les grands procès de sorcellerie. On fait dire ce qu'on veut à n'importe qui sous la torture. L'innocence des Templiers, elle n'est plus remise en question que depuis quelques années.
C'est assez étonnant de se dire qu'il aura fallu attendre 700 ans à peu près, hein, pour qu'on se dise, bah en fait, il y a peut-être une manigance derrière. Peut-être que Philippe le Bel n'est pas autant de bonne foi qu'on veut le dire, et que derrière, bah effectivement, il vise une autre cible que ces malheureux Templiers qui auront servi en quelque sorte de bouc émissaire. Mais voilà, j'étais ravi de le faire et de rembobiner un petit peu l'histoire avec toi, Marine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour envoyer de la science, comme toujours, dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.